Merci d'écouter l'Alpha 10 13. Nous parlons aujourd'hui des municipales 2026. Les municipales, ce sont 900 000 candidats, 50 000 listes réparties dans 35 000 communes, dont Saint-Maur-des-Fossés. Et nous recevons maintenant Pierre-Michel Delecroix, actuel maire de Saint-Maur et candidat à sa propre réélection aux municipales des 15 et 22 mars. Bonjour.
Bonjour, bon dia, et puis merci de me recevoir.
Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes à la tête d'une ville très importante du département du Val-de-Marne. Saint-Maur-des-Fossés, ce sont plus de 76 000 habitants. La presqu'île de Saint-Maur, naturellement défendue par la Marne. Vous êtes maire depuis juillet 2024, après que l'ancien maire Sylvain Berrios a été élu député. Comment s'est déroulée cette transition interne à l'équipe municipale? Comment les habitants l'ont vécu?
Eh bien écoutez, très bien, parce que d'abord, moi j'ai été maire adjoint dès 2014, aux côtés de Sylvain Berrios. Alors j'ai été maire adjoint à l'urbanisme, et lorsqu'il a décidé de prendre la circonscription, pour lui c'était important, et pour nous c'était important que on puisse avoir un député qui représente Saint-Maur à l'Assemblée nationale. Il a donc décidé de se présenter, et de fait, le non-cumul des mandats ne lui permettant donc pas de rester maire, eh bien il m'a proposé et il a proposé au conseil municipal que je prenne la suite. Donc ça a été un honneur, ça a été une fierté, et puis c'est avec beaucoup d'enthousiasme évidemment que j'ai accepté. J'ai donc été élu, et puis ben je vous cache pas que moi je suis Saint-Maurien depuis ma naissance. Mmh. Donc beaucoup de Saint-Mauriens me connaissent, mais au-delà de ça, cette continuité en douceur depuis 2014 était une évidence, et donc les choses se sont faites en douceur, se sont faites avec raison, et Sylvain Berrios m'a accompagné, je dirais, tranquillement sur les premiers mois, puis aujourd'hui encore, et bien il est d'ailleurs sur la liste hein, de Saint-Maur au cœur de nos choix en tant que conseiller municipal. Il n'aura pas de délégation par la force des choses, si je suis réélu, si nous sommes élus, eh bien il sera de toute façon à mes côtés.
Oui, monsieur Berrios reste une figure très importante de Saint-Maur-des-Fossés.
Tout à fait, et on est main dans la main depuis 12 ans, et cet héritage que lui-même a décidé de poursuivre, alors c'est historique, hein, c'était déjà, on a en fait cette même politique, cette même vision de la ville, où on souhaite, bah, comme vous le disiez tout à l'heure, cette presqu'île protégée, dynamique, solidaire, qui est le fruit de historique des villages dans la ville, de Jean-Louis Beaumont, et puis même d'Auguste Marin. Eh bien, c'est cette continuité qu'on souhaite conserver. Et donc, nous sommes en effet ensemble. Il est à mes côtés et avec toute l'équipe municipale, on souhaite poursuivre ce chemin.
Quelles ont été vos priorités immédiates en tant que maire?
Eh bien, écoutez, d'abord, sincèrement, la continuité. La continuité dans la règle d'or financière de ne jamais dépenser plus que ce qu'on rembourse. Parce que la ville était très endettée, je vous le rappelle, hein, en 2014.
Oui, on va en parler des comptes, voilà. Effectivement, puisque et puis surtout, on va parler d'un équilibre qui est étrangement tenu par Saint-Maur, puisque les dépenses augmentent, mais la dette s'abaisse depuis 2020. On va en parler.
Tout à fait. Alors, mes priorités, c'était d'abord de garder cette règle d'or. La deuxième chose, c'est de conserver cet urbanisme à taille humaine. Le PLU, le plan local d'urbanisme, que j'ai mis en place avec Sylvain Berrios dès 2017, protège la ville d'une densification que souhaite l'État. Et je vous cache pas que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dès 2021, on avait été privé des droits d'urbanisme au motif que on construisait pas assez et pas assez de logements sociaux, et donc on a eu aussi à subir une hausse de l'amende et SRU. On est passé de 200 à 400%. Ça, c'était une volonté à l'époque de la ministre du logement de l'époque, Madame Wargon, qui nous avait pénalisé.
Et oui, donc je me permets de donner quelques détails, puisqu'effectivement Saint-Maur est depuis longtemps critiqué pour sa carence en logements sociaux, 9% seulement en 2022, donc bien loin des objectifs de mixité de l'habitat prévus par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, et le précédent maire, Sylvain Berrios, a assumé ses quotas.
Oui, alors si ce n'est que quand on a pris la ville en 2014, on avait un taux de 4,5%. On a énormément fait, et aujourd'hui nous sommes à 11,5%. 3200 logements sociaux ont été construits à Saint-Maur-des-Fossés, ce qui en fait le plus de logements de construits dans la ville par rapport à toutes les villes du Val-de-Marne. Et pour autant, ont continué à être amendés à 400% de l'amende des SRU et continuaient à ne pas avoir ces autorisations de signature de permis de construire. Eh bien, le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, est venu à Saint-Maur au mois de février. Il a reconnu les efforts, il a reconnu que cet urbanisme à taille humaine était finalement le bon équilibre pour une ville. Et donc, nous a rendu les droits d'instruction, donc je peux resigner depuis le 1er mars les permis de construire. Et puis, il a décidé de diminuer à minima par deux cette amende SRU, très injuste, puisque les efforts ont été faits, et finalement, on est passé de 400% à 160%. Donc l'État, la préfecture et le ministre a reconnu les efforts. Donc moi, c'est évidemment cette volonté de continuer à conserver cet urbanisme à taille humaine, faire de sorte qu'on ne construise pas trop haut, 4 étages maximum, sur les seuls 8 grands axes de la ville, et protéger 85% de la ville en zone dite résidentielle ou pavillonnaire, où là on ne peut construire que l'équivalent d'une maison, une hauteur de 10 mètres. Et puis concernant les logements sociaux, moi je ne suis pas contre le logement social. Et Sylvain Berrios ne l'était pas non plus. Par contre, la bonne mixité sociale, c'est de construire sur les grands axes. Quand on construit un immeuble de 30 logements, on a 30% de logements sociaux, donc 10 logements sociaux. Les 70% restent en accession à la propriété. Et on met ces fameux logements sociaux sur nos grands axes et on ne touche pas aux quartiers résidentiels. C'est ça, à mon avis, la bonne solution. Il est hors de question de reconstruire des fameux ghettos en 100% social de ce qu'on a connu dans les années 60, 70, qui créent aujourd'hui ces vrais problèmes urbains.
Donc vous pouvez aujourd'hui nous affirmer qu'en 2032, si vous êtes réélu, la ville de Saint-Maur-des-Fossés ne sera plus une ville carencée en logements sociaux.
Non, je peux pas vous l'affirmer, pour deux raisons. D'abord parce que la loi, aujourd'hui, demande que toutes les villes aient 25% de logements sociaux. Alors, c'est la loi. Mais aujourd'hui, on est à 11,5%. Pour atteindre les 25% de logements sociaux, il faudrait construire plus de 6000 logements 100% sociaux. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait que la ville puisse passer à environ 120 ou 130 000 habitants. Ce qui n'est pas raisonnable et n'est rien raisonné. Dans notre PLU, dans notre plan local d'urbanisme, on a inscrit 83 000 habitants maximum. Pourquoi ? Parce que dans les années 80, on avait atteint ces 80, 82 000 habitants. Et donc la ville, qui est une presqu'île dans laquelle on ne peut rentrer que par 5 ponts, y compris la route qui ensuite peut nous amener à Joinville et Paris, fait que on ne peut difficilement imaginer plus d'habitants que 83 000 habitants. On a les infrastructures scolaires, périscolaires et d'équipements publics pour ces 83 000 habitants, mais absolument pas pour 120 ou 130 000 habitants. Et nous n'avons pas de foncier disponible. À partir de ce moment-là, ce serait déraisonnable de vouloir créer une ville de 120 000 habitants. Donc non, on ne pourra jamais avoir les 25% de logements sociaux. Mais je ne désespère pas que la loi soit revue et corrigée. Et d'ailleurs, j'en discutais avec le ministre du Logement quand il est venu. Il faut qu'il y ait des aménagements de cette loi en fonction des particularismes de certaines villes. Saint-Maur est une ville à 2/3 en zone inondable. On ne peut pas imaginer la construction de logements partout. Et puis, la ville est déjà entièrement construite, entièrement urbanisée. La ville n'a pas de foncier disponible. Eh bien, ces particularités-là, il faut en tenir compte. Il faut les inscrire dans la loi et permettre donc ainsi d'accepter le fait qu'on ne puisse pas avoir ces fameux 25% de logements sociaux. On est à 11,5, on pourrait atterrir à 13 ou 14, mais difficilement plus. Au-delà, ce ne serait pas raisonnable. Et en tout cas, moi, je ne le souhaite pas.
Mais en tout cas, c'est aussi un choix de votre part, puisque quand vous dites qu'on construit des immeubles mais de 4 étages maximum, on pourrait monter plus haut et donc oui, accueillir plus de monde.
On pourrait, mais la volonté, ma volonté et celle qu'avait Sylvain Berrios, c'est d'avoir cet urbanisme qui permette à tout le monde de vivre en harmonie. Et 4 étages, quand vous êtes aux abords de quartiers résidentiels qui, eux, n'ont une hauteur de maison qui fait 10 mètres, 4 étages, ça fait 16 mètres. Quand vous passez de 10 à 16, vous avez une harmonie urbaine. Si d'un seul coup vous montez avec des immeubles de 6, 7 ou 8 étages, vous vous retrouvez en fait avec des fronts bâtis qui vont être une cassure urbaine. Et ce n'est pas du tout souhaité. D'autant plus que nos rues ne sont pas très très larges, nos avenues ne le sont pas non plus. Et donc le bon niveau d'acceptabilité par la population. Et ce qui fait, je dirais, le charme de Saint-Maur, c'est justement de ne pas construire trop. Même si dans les années 60, 70 et 80, et même 90, on a construit des immeubles de 6 étages. Mmh. Mais force est de constater que les 4 étages, et même le dernier qu'on met en attique, c'est-à-dire avec un recul par rapport au dernier étage, ça crée une sensation, ça ne crée pas justement cette sensation d'étouffement. Et donc c'est une ville qui respire, c'est une ville où on y est bien.
Pierre-Michel Delecroix, quel bilan tirez-vous de vos 20 mois à la tête de Saint-Maur-des-Fossés ?
Écoutez, j'ai continué à œuvrer et à mettre en continuité le programme pour lequel nous avions été élus en 2020. On a d'ailleurs, au mois de février, pu inaugurer la Maison des Associations. C'était une promesse de 2020. On a finalisé la réalisation du quartier d'Adamville autour de cette halle qui, elle, par contre, a pris du retard et la halle du marché n'ouvrira qu'en avril. Mais par contre, on a réussi à faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire ce cœur commerçant qui a été entièrement redynamisé, requalifié avec ses rues quasiment piétonne, en tout cas en circulation douce, où on a pu planter des arbres, où on a pu élargir les trottoirs. Ça fait partie de ce qui avait été décidé. Et puis, on avait aussi prévu et décidé de renaturer au maximum nos places, de désimperméabiliser les trottoirs. On a pu, place de Molène, dans le quartier des Mûriers, planter 81 arbres et faire une place beaucoup plus verte. Mmh. C'était aussi un engagement de campagne. Et je dirais que tout ce qu'on a pu, on a réalisé près de 80% du programme de 2020. Donc il fallait aboutir. L'éco-quartier de la Varenne, Jardin des Facultés, a été inauguré au mois de novembre. J'en suis très fier également parce que ça, c'est un petit peu mon bébé. On avait commencé il y a 10 ans, lorsqu'il a fallu transformer cette ancienne faculté dans laquelle j'ai été étudiant moi-même en éco-quartier. La réalité fait qu'aujourd'hui, il est là, il est bien. Cet éco-quartier apaisé est une réussite. Tous les habitants en conviennent avec l'ensemble des éléments, c'est-à-dire une crèche, une maison de personnes âgées, une résidence étudiante, des commerces, un jardin Simone Veil. On a tout ce qu'il faut pour avoir un parcours intergénérationnel à cet endroit. C'est une assez belle réussite à mon sens et c'était également aussi une promesse de campagne.
Donc ce sera l'éco-quartier de Lecroix dans 50 ans ?
Non, ça restera l'éco-quartier du Jardin des Facultés. Mais en tout cas, c'est vrai que le ministre du Logement lui-même a considéré en le visitant que c'était peut-être l'idéal de l'urbanisme de demain. Des constructions qui sont pas trop hautes, des pavillons, du logement social, de l'accession, un mail commerçant, et puis un gymnase, un collège, enfin tout ce qui fait qu'aujourd'hui ce quartier peut vivre en autarcie, puisque il y a beaucoup de commerces qui s'y sont déjà ouverts, il y en a encore d'autres à venir, et tout ça interdit aux voitures directement puisqu'il y a un parking en sous-sol et puis vraiment un éco-quartier puisque les eaux de pluie sont entièrement récupérées pour pouvoir se mettre à la parcelle, enfin en tout cas pour éviter justement ces endroits qui seraient trop imperméables. Et donc oui, on peut être assez fier du résultat.
Nous évoquions la question des chiffres au début de cet entretien. Parlons-en. La dette de la ville de Saint-Maur s'élève à plus de 200 millions d'euros. Elle a baissé depuis 2020, en moyenne 2,7% par an, tandis que les dépenses de la ville, elles, augmentent. Elles se chiffrent environ à plus de 2000 euros par habitant, soit une augmentation de 3,5% par an depuis 2020. Comment tenez-vous cet équilibre ?
Alors, c'est même mieux que 200 millions, parce que 200 millions, c'est ne pas tenir compte du fonds de soutien de l'État, qui fait que finalement, nous avons atterri à 150 millions. Donc oui, on a 152 millions. En fait, en 2014, quand on a pris les rênes de la ville avec Sylvain Berrios, la ville était surendettée, 264 millions de dettes. La ville était au bord de la tutelle de l'État. En plus, c'était des emprunts toxiques. Il a fallu les renégocier avec les banques. Il a fallu gérer ça, je dirais, en bon père de famille. Et nous avons en effet réduit la dette de 100 millions d'euros en un peu plus de 10 ans. Donc, l'objectif, il est de continuer à désendetter la ville, même si aujourd'hui, 150 millions, c'est un endettement assez correct, je dirais, pour une ville de cette strate. Moi, je souhaite continuer à désendetter la ville, peut-être à un rythme un peu moins soutenu, pour permettre un peu plus d'investissement. Ce qui est clair, c'est que nous avons réussi à investir 225 millions d'euros pendant cette même période. Il faut continuer à soutenir l'investissement, c'est important. Il y a des choses à faire à Saint-Maur, beaucoup, et notamment prioriser la réfection des routes et des trottoirs, ce que nous n'avons pas pu faire les années précédentes, puisqu'au départ, on avait priorisé la réfection de nos écoles. On a 25 écoles et il fallait absolument d'abord les mettre aux normes, avec les plans Vigipirate, avec aussi beaucoup de choses qui ne se voient pas, malheureusement, mais qui coûtent cher. Et aujourd'hui, la priorité, c'est les routes et les trottoirs. Donc, continuer sans avoir à augmenter d'impôts, parce que pendant 7 ans, on n'a pas augmenté le taux de la taxe foncière. J'aimerais pouvoir dire que je ne souhaite pas continuer à augmenter les impôts, mais ça ne dépend pas que de moi. Parce que on ne sait pas ce que l'État va nous réserver. En 2014, on percevait une dotation générale de fonctionnement de 24 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 6 millions d'euros. Donc on a un manque de 18 millions d'euros par an de DGF. Si demain l'État nous supprime complètement cette DGF et donc on perd 6 millions à nouveau, eh bien là, on va devoir faire des choix, soit devoir malheureusement ou réduire le service public d'une manière ou d'une autre, ou devoir augmenter les impôts. Je ne souhaite pas en tout cas augmenter la dette, qu'il arrive.
Qu'est-ce que vous appelez réduire les services publics ?
Eh bien, prenons un exemple concret. Aujourd'hui, à Saint-Maur, on a une chance extraordinaire, c'est que nos services de périscolaire, c'est-à-dire concrètement, quand vous déposez vos enfants à l'école le matin, vous pouvez les déposer dès 7h30 et vous pouvez les reprendre le soir à 19h. C'est une particularité de Saint-Maur. Si on prend des villes comme Paris, à partir de 17h30, il n'y a plus de garderie. Nous, c'est au-delà d'une garderie, c'est un véritable service de périscolaire avec des ateliers soleil, avec véritablement des animateurs compétents qui s'occupent des enfants et qui ne font pas que de les garder. Si demain, il s'avérait qu'on ait plus les moyens de pouvoir proposer ce service, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. C'est soit augmenter le tarif du périscolaire, soit réduire les tranches horaires, soit augmenter les impôts, soit augmenter la dette. Aujourd'hui, heureusement, rien de tout cela n'est évoqué et n'est envisagé, parce que on a la chance de pouvoir avoir cette gestion rigoureuse et de pouvoir bénéficier encore et d'aide. Mais je ne sais pas de quoi demain sera fait. L'année dernière, l'État a décidé d'imposer aux villes un impôt solidarité qui s'appelle le DILICO, et du jour au lendemain, ils nous ont pris 1 million d'euros supplémentaires. Si demain ils nous en prennent 2, il va falloir composer avec. S'ils en prennent pas, ben tant mieux. Voilà. Donc je ne peux pas, moi, garantir aux Saint-Mauriens que rien ne bougera. Il faut en tout cas naviguer en bon gestionnaire en fonction des différents aléas que nous pourrions subir.
Une des critiques les plus souvent adressées à la ville de Saint-Maur est que c'est une ville chère. Les prix de l'immobilier sont exorbitants. Saint-Maur est-elle et ne sera-t-elle à jamais qu'une ville d'héritiers ?
Alors écoutez, d'abord, Saint-Maur c'est 60% de propriétaires, mais il y a 40% de locataires. Deuxièmement, oui, on a un foncier qui est cher, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que ce particularisme d'avoir les 12 kilomètres de bord de Marne fait aussi le charme de la ville. Cette ville a été dessinée il y a un peu plus de 100 ans par Auguste Marin, avec 8 quartiers, 8 centralités, 8 centres commerçants, avec ses écoles, ses places. On a la chance d'avoir 33 squares. Aujourd'hui, il n'y a plus de foncier disponible depuis longtemps. Et la réalité, c'est que c'est l'offre et la demande. Saint-Maur est une ville très attractive. On a la chance, par exemple, d'être en zone blanche en matière médicale par l'ARS. C'est-à-dire que c'est une des seules villes à avoir le nombre de médecins, de spécialistes, cardiologues, rhumatologues, dermatologues, cancérologues, ophtalmologistes, en nombre supérieur, suffisant à Saint-Maur. Mais la raison est simple, c'est que tous ces professions libérales, médicales et paramédicales préfèrent travailler au plus près de chez eux. Et il s'avère qu'ils veulent habiter à Saint-Maur. Donc ils viennent s'y installer, puis ensuite ils installent leurs cabinets médicaux au plus près. C'est une chance pour la ville, mais c'est aussi une réalité qui fait que le foncier reste cher. Est-ce que c'est une ville que d'héritiers ? Je ne sais pas. Les transactions immobilières reprennent. Moi, je vois passer les ventes.
Je vois. En tout cas, j'imagine qu'il y a un peu de primo-accédants dans Saint-Maur.
Alors, moi, je m'y affaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je demande à ceux qui construisent du logement collectif de réserver des appartements aux primo-accédants, notamment à travers le BRS, le bail réel et solidaire. On est une des seules villes du Val-de-Marne à avoir proposé cela. Il y a deux immeubles à Saint-Maur qui ont été construits. Je souhaite continuer à faire la promotion du BRS et donc demander aux promoteurs de construire avec ce process qui permet aux primo-accédants de pouvoir justement, à moindre coût, commencer à mettre le pied à l'étrier. Et puis, on a aussi donné de la place aux résidences étudiantes. On en a déjà quatre sur la ville et il y a d'autres projets, notamment pour ceux qui connaissent Saint-Maur, la clinique Marcelin Berthelot, qui est une clinique qui est désaffectée depuis de nombreuses années, qui va être transformée en résidence étudiante. Et c'est une bonne chose. Et puis on a des résidences seniors qui voient le jour également, parce que notre population, pour nos aînés, doit trouver sa place. Et donc, moi, je pense qu'au contraire, Saint-Maur a vocation à être une ville où on puisse avoir un parcours de vie pour tous. Donc, du logement social, du logement intermédiaire. De plus en plus d'immeubles aujourd'hui proposent du LLI, logement local intermédiaire. C'est le cas notamment sur l'avenue Louis Blanc, l'avenue de l'Alma, qui sont des axes importants entre le pont de Bonneuil et le pont de Champigny. Et donc, je ne crois pas que la ville restera, et en tout cas soit réservée uniquement pour des propriétaires. Il y a la place pour tout le monde.
Par souci d'équité, monsieur Pierre-Michel Delecroix, permettez-moi de citer les autres listes candidates au municipal à Saint-Maur-des-Fossés. Il y a la liste Vivons Saint-Maur, divers droites, portée par Mathieu Fernandez, la vôtre, Saint-Maur au cœur de nos choix, Les Républicains, Pierre-Michel Delecroix, donc une liste d'Union de gauche, Unie pour Saint-Maur, Céline Vercelloni, une liste du Rassemblement National, Un nouvel essor pour Saint-Maur, Jérôme Bertrand, et la liste Imagine Saint-Maur, portée par Mehdi Kouki, de LFI, trois listes de droite, donc sur cinq, craignez-vous la dispersion des voix, la perdition des votes ?
Écoutez, ça, c'est dimanche soir qu'on le verra. Je peux absolument rien présager. Moi, vous voyez, pour la liste Saint-Maur au cœur de nos choix, j'ai souhaité être une liste de rassemblement de la droite et du centre, avec une partie de colistiers qui sont encartés et la grande majorité qui ne le sont pas. C'est avant tout des hommes et des femmes saint-mauriennes. Moi, je suis saint-maurien de cœur, de toujours. Ceux qui m'entourent également. Et j'ai envie de reprendre ce que disait Sylvain Berrios il y a quelques années. Quand on crée une épicerie solidaire, est-ce de droite, est-ce de gauche ? Moi, je pense que tendre la main aux plus faibles, c'est avant tout de la solidarité et que c'est pas étiqueté. À Saint-Maur, ce qui est important, c'est de s'y sentir bien, c'est de laisser la place à la culture, au sport. On est une ville très sportive, très culturelle, qui va au-delà des clivages gauche et droite. La seule chose où on aurait peut-être une approche plus droitière au regard de ce que j'entends dans les autres villes de gauche, c'est ce souhait de conserver et d'augmenter notre police municipale, nos agents de Saint-Maur proximité. Je souhaite créer une brigade de l'environnement. Pour moi, il est essentiel que la protection des hommes, des biens, soit la priorité saint-maurienne, car au-delà d'un urbanisme qu'on doit protéger et des finances qu'on doit protéger, il faut protéger les biens et les personnes. On a 204 caméras de vidéoprotection, je souhaite augmenter ce nombre de caméras. Nous avons la première police du Val-de-Marne en effectif. Je souhaite augmenter ces effectifs pour être au plus près de la protection des habitants sur nos places. On a 4 gares de RER. C'est aussi une ville qui a le plus de gares. Et vous savez qu'au pied des gares, partout en France, eh bien, on a un effet, malheureusement, de regroupement. de personnes qui sont là un peu pour zoner, et il faut les canaliser, il faut s'assurer que les choses se passent bien. Donc on a évidemment toutes ces places qu'il faut aussi protéger, nos écoles, et puis il faut que les Saint-Mauriens, qui se sentent déjà en sécurité, continuent à se sentir en sécurité. On a été classé la deuxième ville la plus sûre du Val-de-Marne. Je souhaite que nous puissions atteindre la première place. En tout cas, j'œuvrerai pour que on puisse continuer à être dans cette ville protégée. Et donc, augmenter les effectifs de police municipale est une priorité budgétaire. C'est important. Et voilà, c'est peut-être le côté un peu droitier que certains pourraient nous reprocher, car j'ai trop entendu dans les villes gérées par la gauche qu'ils souhaitaient désarmer la police, qu'ils souhaitaient enlever les caméras de protection. Moi, c'est tout à fait l'inverse. On a aujourd'hui une police municipale qui est armée 7 jours sur 7, 20 heures sur 24. Et d'ailleurs, dans le programme que je mets en place, il y aura l'ouverture d'un très bel hôtel de police municipale juste à côté de la caserne des pompiers, qui verra le jour en 2027, avec un centre de supervision urbain flambant neuf, et on va continuer à protéger la ville et à rassurer les habitants.
Oui, pour vous, la liberté va avec plus de sécurité, plus de caméras, plus de policiers, ce n'est pas liberticide.
Pas du tout. Et moi, je vais vous dire, s'il y a plus de protection et plus de sécurité, si les habitants se sentent en sécurité, ils ont plus de facilité à sortir le soir, à aller au restaurant, à aller au théâtre, à aller au cinéma, à pouvoir faire du jogging sur les bords de Marne jusque tard dans la nuit. Et on voit qu'à Saint-Maur, notre jeunesse peut sortir en sécurité. Et j'ai animé une dizaine de réunions publiques à partir de 20h dans tous les quartiers de la ville, et j'avais plaisir à voir les habitants venir à pied dans ces réunions sans craindre pour eux. Donc oui, je pense qu'au contraire, protéger les habitants, c'est leur donner plus de liberté pour pouvoir se déplacer en toute sécurité.
Craignez-vous l'abstention ?
Pas tellement, parce que je pense que s'il y a bien une élection qui intéresse les habitants, c'est les élections municipales. Les habitants sont proches de leur maire, moi je suis proche des habitants, mon bureau est grand ouvert, je reçois tous les Saint-Mauriens qui le souhaitent, je suis à leur contact tous les jours. Et donc je pense que si les habitants, si les Français aujourd'hui trouvent un écho à la politique, c'est uniquement auprès de leur maire. Malheureusement, c'est vrai qu'ils s'en détachent beaucoup ailleurs. Donc je ne crois pas qu'on aura une forte abstention, bien au contraire. À écouter les gens sur les marchés ou ailleurs, ils vont se mobiliser. Après, le temps va jouer aussi. Est-ce qu'il pleuvra? Est-ce qu'il fera beau? Mais je ne doute pas d'une participation active.
Et ce sera ma dernière question, une question prospective. Comment imaginez-vous Saint-Maur en 2032?
Eh bien écoutez, comme elle est aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment cette ville où on s'y sent bien, où on peut profiter des bords de Marne. L'année prochaine, dès cet été, on va pouvoir se baigner pendant un mois au mois de juillet. Moi, je souhaite que l'année prochaine, on puisse s'y baigner deux mois. Je souhaite que les Saint-Mauriens puissent encore plus profiter de la Marne et puis que ces enfants qui grandissent en sécurité dans nos écoles puissent rester, continuer à habiter à Saint-Maur. On voit de plus en plus de jeunes qui viennent s'y installer. Donc je vois une ville qui est comme elle l'est aujourd'hui, c'est-à-dire avec cet urbanisme maîtrisé, où on puisse se divertir, on puisse se cultiver, et puis on puisse faire du sport en sécurité, et que on continue à tendre la main aux plus faibles. Voilà, c'est une ville où on s'y sent bien. On aura nos marchés qui seront tous rouverts, y compris celui de Saint-Maur-Créteil, avec le parvis du métro qui va enfin pouvoir être finalisé. Et donc on aura nos 9 marchés, on aura nos 2 halles flambant neuves. Et on aura encore, comme on l'a depuis maintenant quelques années, toutes ces terrasses de restaurants vivantes, animées. Donc moi, je suis assez confiant pour l'avenir. Enfin, en tout cas, c'est mon souhait, qu'on s'y sente bien, qu'on reste la ville la moins stressante d'Île-de-France, comme on a été classé l'année dernière. Voilà, c'est mon souhait, en tout cas, pour que Saint-Maur reste cette presqu'île protégée, dynamique et solidaire.
Merci monsieur Delecroix pour ces précisions et vos explications sur vos projets pour Saint-Maur-des-Fossés.
Eh ben merci à vous, et puis je souhaite à tous et à tous un très bon week-end, et puis bon vote dimanche. Merci.